Ce mercredi 12 mars, à l'occasion de la Journée mondiale contre la cybercensure, Reporters sans frontières a publié son rapport annuel sur les ennemis d'Internet. Un document très attendu après cette année de révélations quant aux pratiques douteuses des agences de surveillance de démocratie comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Sans surprise, ce rapport épingle ces États, mais Reporters sans frontières a choisi, pour être plus précis, de désigner les institutions coupables de surveillance massive du réseau. La National Security Agency, la NSA américaine, et le Government Communications Headquarters, le GCHQ anglais, font partie des 31 institutions désignées cette année comme ennemies d'Internet. Le Centre de développement des télématiques en Inde fait également partie des organismes dont les méthodes sont dénoncées dans le rapport. Dans la liste des ennemis d'Internet 2014, on trouve aussi ceux que RSF appelle les dealers de la surveillance. Il s'agit de 3 salons d'armement, ISS World, Technology Against Crime ou TAC et Millipol. Ces forums, je cite, mettent en relation des sociétés spécialisées dans la censure et la surveillance avec des gouvernements comme ceux de l'Iran, la Chine ou Bahreïn. Et RSF de rappeler qu'en 2013, TAC et Millipol, 2 de ces salons ont donc été accueillis par la France. Bonjour et bienvenue dans l'Atelier des médias, l'émission qui explore chaque semaine les méandres numériques et journalistiques d'un monde qui se cherche.
Très bien, Internet. Qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Ce samedi 15 mars marque le 3e anniversaire de la révolution syrienne devenue guerre civile après un début pacifique. Nos deux invités, Caroline Donati et Karine Lefebvre-Couenel, ont piloté le web documentaire Syrie, journaux intimes de la révolution. Nous serons avec elles dans la seconde partie de l'émission. Ce sera juste après une virée en camion dans le van de Davanac, alias Damien Van Acteur, que nous retrouvons dans un instant. D'ici quasiment une heure, Francis Pisani nous fera un point sur son nouveau tour du monde consacré à l'innovation dans les villes.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Si vous nous écoutez régulièrement, vous connaissez bien notre invité à suivre tout de suite. Damien Van Acteur est un journaliste bidouilleur, touche à tout. Au mois de juillet dernier, il était là pour nous parler du van, du camion qu'il était en train d'équiper pour en faire un laboratoire mobile du journalisme. Avec Simon, nous sommes passés voir Damien en Belgique il y a quelques jours pour assister à ses masterclass, ses classes en immersion totale dédiées à ses élèves en journalisme de l'IEX, et nous en avons profiter pour tester ce fameux camion.
Salut Damien.
Bonjour Ziel.
Ça va?
Super.
C'est ça ton camion?
Ouais, c'est ça le camion.
Oh là là. C'est un camion tout simple en fait.
Ah bah ouais. Mais c'est ma voiture, moi j'ai vendu l'autre pour acheter celle-là.
Ah, à l'arrière il y a 6 sièges. Bon bah ouais. On va se mettre à l'arrière hein.
Allez-y, ouais, ouais.
Mais attends, c'est où Ah oui, je vois des prises, là.
Donc il y a des prises qui sont là, il y a 6 prises de courant, il faut aller voir dans le coffre. Hein. Il y a un générateur de courant qui est autonome, qui est branché sur une deuxième batterie qui est en fait sous le siège passager avant. Et c'est 2 batteries qui sont différentes. Il y en a une pour faire circuler le véhicule et l'autre batterie qui est destinée à faire fonctionner toute l'électricité à bord, dont le modem. Le modem qui génère du Wi-Fi. Et donc là, le Wi-Fi, il est allumé.
C'est
donc
vrai.
On peut se connecter et puis en roulant, ça fonctionne. J'ai fait les tests en arrivant.
Ah bah, en fait, c'est un camion connecté, quoi.
Ah ouais, c'est le but, ouais.
Chacun vient avec son ordinateur, son enregistreur, sa caméra, et il fait ce qu'il veut avec, quoi.
Exact. C'est vraiment, j'ai essayé de trouver la meilleure manière d'être le plus flexible possible, et l'idée, c'est de pouvoir aller observer une même réalité à des endroits différents dans un laps de temps le plus court possible. Donc on rentre, on sort, on prend des vidéos, on prend des photos, puis sur le temps où on va vers le point B, eh ben, on édite tous ces contenus-là et on les envoie en ligne.
Il faut un chauffeur, quand même.
Ouais, ça, c'est moi.
et en fait, s'il n'y avait pas marqué, il y a marqué Lab Davanac dessus, c'est ça?
Viens un peu. On a fait un peu de.
Donc, Lab Davanac, c'est ce qu'il y a marqué derrière. Ouais. First learn the rules, then break them. Ça veut dire
Ouais. Bah, d'abord apprendre les règles, d'abord apprendre dans quel monde on vit, et puis essayer de les changer, essayer de faire avancer un peu le schmilblick, quoi.
De les casser même, break them.
Ouais, c'est une devise que j'ai vue plusieurs fois sur le web dans le monde des développeurs. Ouais, la plaque est pas mal, et je l'ai pas choisie celle-là.
Allez, on rentre, il pleut en plus là. Qu'est-ce qui va devant?
Non, elle est plus de là, elle est plus de là. Ah ouais. Waouh.
C'est une des choses qui est très très agréable quand je suis dans le véhicule avec les étudiants notamment. Quand il y a 6 gamins derrière avec leur laptop sur les genoux qui travaillent, avec un petit fond de musique, de sentir qu'il se passe des trucs dans mon dos. Ils me posent des questions, moi j'essaie de leur répondre dans la mesure de ce que je peux leur répondre. Je prends un panard à faire ça, c'est un vrai bonheur parce que pour eux c'est tout à fait nouveau, pour moi c'est tout à fait nouveau. Ils ont autant à m'apporter que moi j'essaye de leur apporter. Je suis pas un prof quand je fais ça. C'est du coaching, c'est de l'accompagnement sur des projets ou sur lesquels, à la limite, quand on démarre le matin, on sait même pas où on va aller, on sait pas où on va dormir. Mais on a les deux yeux sur l'horizon, sur le projet qu'on est en train de faire, sur les gens qu'on va essayer d'aller rencontrer. Et le fait d'être connecté en roulant, ben ça permet, grâce à Twitter, grâce à Facebook, de dire à un moment donné, voilà le sujet qu'on traite, voilà la réalité qu'on voudrait observer, voilà les hypothèses de travail qu'on a, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et de voir qu'on est à 60-80 km/h sur les nationales en Belgique, et d'avoir des gars derrière qui disent, oh ouais, on vous voit, on a suivi par où vous étiez passé, on a vu votre check-in dans Foursquare, le prochain bled à droite là-bas, allez voir machin de ma part, voilà son numéro de portable. Attends, c'est juste fantastique de fonctionner comme ça. Et journalistiquement parlant aussi, c'est neuf comme manière de fonctionner, en tout cas pour moi. Et de réussir à transmettre ça aux étudiants, c'est un work in progress aussi. Il n'y a rien de défini et de fermé. C'est vraiment ce que moi j'aime bien appeler de l'open journalisme en fait. La salle de rédac, elle est grand ouverte. On peut y rentrer, on tweet, on Facebook, on utilise les réseaux sociaux, on utilise des outils qui sont à notre disposition pour essayer d'amener du sens. Et voilà, on est en 2014 et pouvoir monter un projet comme celui-ci, c'était même pas imaginable il y a 5 ans. Et de pouvoir le faire, bah c'est... Ouais, c'est un vrai pied. Ouais. C'est un vrai pied.
C'est aussi une manière de pallier aux problèmes de réseau qu'on connaît encore aujourd'hui, même si ça existe depuis 10 ans, 15 ans, les réseaux mobiles, l'internet, Wi-Fi, etc. Il y a encore... finalement plein de faiblesses, et là pour le coup on est sûr de pouvoir travailler et déplacer son bureau avec soi, quoi. C'est ça ?
Oui, dans les intentions en tout cas, c'est ça. Après, on est tributaire du réseau GSM, c'est la 3G, c'est la 4G. Il y a des zones en Belgique et en France, c'est pareil, qui sont très très peu couvertes. Quand on est avec du Edge, faut pas espérer faire de la vidéo ou transmettre des données très, très 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 conséquentes, mais on a fait du Hangout en roulant. Du nord au sud, donc de Bruxelles vers les Ardennes, on sait qu'il y a des zones qui sont déjà équipées en 4G. Là, je download quasiment du 20 mégs seconde, même en roulant. C'est des débits qu'on n'a parfois pas en résidentiel.
Un Hangout, pour préciser, c'est un visiophone, quoi. C'est comme un Skype, c'est un téléphone avec la caméra, quoi.
Oui, c'est ça. C'est avec la caméra soit de son laptop, soit de son portable, soit maintenant, même avec des lunettes connectées. Alors ça ouvre des portes, parce que quand on commence à jouer avec du Hangout, avec des Google Glass où on est en direct et où on peut faire vivre des choses aux gens tout en roulant, tout en avançant, c'est presque la carte au trésor, quoi. À part qu'avant, il fallait des hélicos pour faire ça. Et là, on peut imaginer de faire ça avec une bagnole, parce que c'est une voiture. Moi, j'ai un permis normal, c'est pas un permis camion, justement. C'est un transport de personnes. Voilà, moi c'est là-dessus que je fais le pari, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont envie de vivre des expériences dans ce véhicule, et depuis le mois de mai 2013, on commence à accumuler les expériences, on commence à accumuler les sorties, on commence à peaufiner aussi les processus et à comprendre un petit peu comment ça fonctionne aussi. On a fait plein d'erreurs, et je pense qu'on en fera encore plein, mais c'est comme ça qu'on apprend.
Tu dis que tu as fait des erreurs, c'est quoi les erreurs que tu as pu faire et dont tu as appris ?
Ah, c'est par exemple de vouloir transformer le véhicule en studio de télé, par exemple. La tentation, elle était forte. de se dire waouh, on a un studio de télé ambulant, on n'a plus besoin d'un car régie, on va pouvoir monter un truc avec des lumières, avec des caméras fixes, avec une prise de son impeccable, on va pouvoir faire un plateau avec une table au milieu. Et sauf que non, c'est pas un studio de télé, c'est un véhicule. Et immobiliser, alors là aussi on apprend des trucs, immobiliser des actifs, parce que c'est ça, hein, une caméra, c'est des choses qui en est. Bon, si je les immobilise dans le véhicule, je peux pas les utiliser à autre chose, donc ça me coûte de l'argent. Et si je veux les rentabiliser, je dois passer ma vie dans mon véhicule alors. Et ça, c'est pas le but. Ça reste un outil de travail pour faire des projets et mener à bien des projets qui, en donné, sont limités dans le temps. Moi, je veux pas passer ma vie au guidon de ma bécane, ça n'aura aucun intérêt, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Et si je suis obligé de le faire pour rentabiliser l'outil, j'ai loupé ce que je cherchais à faire. Donc, pour l'instant, j'ai mis un peu le frein par rapport à ça, pour essayer de trouver le meilleur setup possible, et on est en train de le trouver, pour faire en sorte d'avoir un minimum de dispositifs à l'intérieur du véhicule, mais qui peut être dupliqué à l'extérieur du véhicule. Et donc, de très vite sortir du véhicule pour pouvoir faire des petits plateaux, facilement, notamment grâce à le kit du e-reporter que Nicolas Becquet a expérimenté. C'est sur base d'un mobile, sur base d'une tablette, avec quelques outils supplémentaires, il y a moyen très, très facilement de pouvoir sauter du véhicule, aller faire une captation, aller prendre des images, aller prendre de l'audio, prendre de la vidéo, voire même écrire du texte, remonter dans le véhicule, et pendant qu'on roule pour aller à un autre point B, y a déjà moyen d'éditer ce contenu-là et de l'envoyer en ligne. Et de maintenir des relations en fait avec les gens, c'est faire un peu du teasing aussi, c'est de dire on a une heure de vidéo qui ont été enregistrées, on vous sort les 15 secondes les plus croustillantes, sachez que fin de journée, la vidéo complète arrivera. C'est du marketing éditorial, ça existe depuis toujours. Mais là, il y a moyen d'inventer des nouvelles formes. Voilà.
Il y a quelques semaines, on avait comme invité dans l'émission un monsieur qui s'appelle Bruno Marsloff, qui est sociologue et qui a écrit un livre qui s'appelle « Sans bureau fixe », qui parlait de la mobilité justement et qui expliquait qu'on manquait de tiers-lieux, c'est-à-dire de lieux qui puissent permettre aux gens dans la mobilité de travailler, de continuer à travailler et de travailler là où ils sont, parce que maintenant ils sont mobiles, ils ont leur portable, leur téléphone intelligent qui leur permet de travailler un peu partout, mais c'est pas encore suffisamment confortable. Finalement, ce camion, tu pensais en faire une régie ou un camion de journalisme, tu en as fait une sorte de tiers-lieu mobile, quoi, de lieu de travail mobile qui t'accompagne partout.
Oui, bah c'est mon bureau. Moi, je travaille là où mon camion se trouve. Je sais que j'ai du wifi, que je peux travailler. Donc, plus d'une fois, je me suis surpris à passer à l'arrière, chose que je fais jamais puisque je suis derrière le volant quand elle bouge, à passer à l'arrière et à me mettre avec mon laptop, un peu de musique, et je travaillais comme... voilà. Et ce qui est très très marrant dans ces cas-là, c'est qu'il y a les gens qui passent le long du véhicule, qui me voient. J'ouvre la porte et puis on cause, quoi. On discute, on s'assied et là aussi, c'est partir à la rencontre des gens, c'est poser le véhicule sur la place d'un village et laisser faire la sérendipité des rencontres qui vont pouvoir se passer à ce moment-là. C'est ça, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Mais c'est mon véhicule. Donc effectivement, j'ai vendu ma bagnole pour pouvoir me l'acheter.
La sérendipité, c'est une forme de hasard qui n'est pas totalement du hasard, mais en gros, c'est du hasard, quoi.
Oui, c'est du hasard qu'on provoque un peu en se disant... advienne que pourra, inch'Allah, youpi, mais on se sent bien dans ses bottes et on sait qu'il va se passer des choses quand on est dans cet état d'esprit-là. Voilà.
Ça change quoi finalement au journalisme, parce que c'est une continuité des outils qui existent déjà.
Mais écoute, moi je l'ai toujours perçu comme étant un projet sur le côté de mon activité principale. C'est un outil que j'apprends à maîtriser parce que je pense qu'il a un potentiel assez génial, mais de nouveau j'ai dû apprendre à comprendre comment ça pouvait fonctionner et surtout quelle était sa moelle épinière. Et sa moelle épinière, c'est la mobilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon but, c'est pas de circuler pour circuler en bagnole, ça n'aura aucun intérêt. Donc, j'essaie de monter des projets. Voilà, j'essaie de monter des projets qui sont à vocation journalistique, mais pas que. À vocation pédagogique, c'est quand j'embarque mes étudiants en journalisme, là, j'arrive à mêler les deux. Et puis, il faut aussi trouver un modèle économique qui va avec. Je roule pas à la flotte. Le temps que je passe dedans, bah, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose. Donc, je ne me mets pas la pression de devoir partir tout le temps, je ne me mets pas la pression de devoir absolument tester plein de choses. Mais quand ça se met, quand j'ai envie de le faire, à ce moment-là, on monte un équipage et on y va. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses. À l'heure d'aujourd'hui, je serais bien incapable de te dire ce que ça change au journalisme. Par contre, je commence à avoir une petite idée de ce que ça change à ma façon, à moi, de travailler et d'évoluer. Ça ouvre des portes, ça ouvre des pistes. Mais c'est que le début. Je sais pas si ça change le journalisme. Je pense que Philippe Bouvard faisait exactement la même chose dans les années 70 avec un camion où il partait suivre le Tour de France à la rencontre des gens. C'était de la radio, c'était pas du web. Moi, je fais pas de la radio, je fais pas de la télé, je fais de l'audio, de la vidéo, je raconte des histoires avec les outils qui sont à ma disposition. Mais j'ai pas du tout la prétention de changer des choses au journalisme, loin de là, non.
Est-ce que ça pourrait pas être aussi une forme d'addiction à la connectivité, au fait d'être connecté? Est-ce que c'est pas aussi ça le risque? Ou parfois tu te dis pas, j'exagère un peu à être tout le temps connecté, à faire suivre cette connexion avec moi en permanence dans mes déplacements, etc.
Je pense que les risques, ils sont super nombreux. J'ai la chance d'avoir une femme admirable qui me comprend, mais qui a le don aussi de me remettre bien les deux pieds sur terre de temps en temps, et d'une manière que, voilà, ça fait presque 20 ans qu'on est ensemble. Plus je suis connecté, en fait, plus j'apprécie les moments de déconnexion. Vraiment, et c'est autant je vais pas me coucher tant que j'ai pas mon inbox à zéro, donc ma boîte mail doit être à zéro message non lu. Ça veut pas dire que j'ai pas des choses encore à faire, hein, mais j'ai lu tous les messages importants. Autant c'est très très gai de pouvoir dire on est moi le véhicule ici, je coupe le wifi et je suis pas connecté. D'ailleurs ça n'aura aucun sens d'avoir du wifi en permanence dans la bagnole quand je suis tout seul dedans. Par contre, de pouvoir rentrer dans le modem et dire on va pouvoir me traquer en ligne quand j'ai fait le choix d'être affiché sur une carte, je me réapproprie l'outil. C'est dans cette vision là que je le fais. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à bloguer un jour? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à jouer avec de la vidéo? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à jouer avec des portables pour faire ce que je fais? C'est pour me réapproprier mes outils de production en tant que journaliste. Je l'ai fait parce que c'était mon outil. Voilà. Et mon outil, ben, j'en fais ce que je veux et je le casse si j'ai envie de le casser. Je le casse pas, évidemment. Mais hacker le modem du véhicule, ça a été une des premières choses que j'ai voulu faire. Et on a été capable d'aller sortir les datas de Geolog, on les a mis sur une map. À quoi ça sert? Je n'en sais pas. Fichtrement rien.
Non. Donc je traduis juste hacker les données du modem, ça veut dire rentrer dans le modem pour prendre des informations et les mettre sur une map en géologue, ça veut dire mettre ces informations géographiques sur une carte, quoi. Et donc ça permet de suivre tout le trajet du véhicule. Et tu sais pas à quoi ça sert.
Mais c'est ça aussi la beauté de ce sport-là. Enfin, c'est qu'on on découvre des choses et les usages, ils vont venir par après. Je parlais tout à l'heure de Google qui fait les Google Cars maintenant, où il faut même plus le bonhomme derrière pour conduire. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va être en voiture pour des trajets de 3, 4, 5 heures et qu'on doit même plus conduire? On va faire quoi? On va taper la belote? Ou bien on va utiliser les vitres pour surfer sur Internet? On va faire quoi? Il y a plein de nouveaux usages qui sont à imaginer, à créer. Alors, est-ce que c'est le job du journaliste de faire ça? Non, bien sûr que non. Mais en tant que journaliste, si on peut comprendre ça et anticiper un peu le mouvement en ayant un peu le nez fin et en percevant peut-être les risques aussi qui peuvent arriver, ouais, moi, c'est un job qui me plaît bien. Là, on arrive à égoser.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Pause dans l'atelier des médias. Nous revenons dans 3 minutes pour parler maintenant de la Syrie 3 ans après le début de la guerre civile. À tout de suite.